Les enjeux internationaux avec vous, Xavier Martinet. Bonjour.
Bonjour, Jacques Meunier. Nous nous retrouvons la Lune à New York qui regarde l'Assemblée générale de l'ONU qui commence aujourd'hui l'Assemblée générale et les différents organes de l'ONU. C'est la tribune des dirigeants du monde, baromètre de la sécurité collective et une coopération multilatérale comme l'année dernière menacée. On en parle avec vous, Guillaume Devin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à Sciences Po Paris, spécialiste des relations internationales et de leurs institutions, justement parmi vos ouvrages Les organisations internationales chez Armand Collin. Alors c'est demain que les dirigeants parleront et pour une fois peut-être la grande messe porte bien son nom puisqu'il s'agira avant tout d'obtenir un engagement des États à défendre le système multilatéral avec certains passages obligés. Les discours de Donald Trump qui attirera comme jamais l'attention, ont déjà dit les États-Unis, ou d'Emmanuel Macron qui plaidera, je cite, pour un multilatéralisme fort avant que la France prenne la présidence du G7 en 2019. Jean-Claude Juncker fera aussi le déplacement parmi les 130 dirigeants. Ceci un an après sommet marquant l'année dernière, réunion marquante. Le contexte international est plus incertain. Les États-Unis se sont retirés de 3 instances de l'ONU. Il y a toujours des antagonismes forts au sein du Conseil de sécurité. Coïncidence, le Conseil de sécurité sera dirigé cette semaine par les États-Unis, ce qui conduira peut-être Donald Trump à une certaine réserve envers l'Iran. On verra. Alors si ce n'est l'AG de la refondation, ce sera bien celle peut-être de la profession de foi. Pour ce qui est du multilatéralisme, est-il aussi affaibli qu'on le dit? Juste une remarque, Guillaume Devin, sur la forme de cette Assemblée Générale. On dit que jamais les dirigeants n'ont été aussi nombreux parmi les 193 États membres, 130 chefs d'État et de gouvernement. C'est un bon signe de vitalité pour ce multilatéralisme.
Oui, vous avez raison. La mobilisation de cette Assemblée Générale met en lumière aussi l'intérêt retrouvé de l'Assemblée Générale en tant que grand forum universel, probablement à un moment où le Conseil de sécurité, lui, est bloqué. Bloqué en particulier sur des dossiers très cruels comme celui de la Syrie, du Yémen ou d'autres conflits. Ceci étant, faut pas voir... me semble-t-il, l'actualité multilatérale uniquement sous un angle négatif. Il se passe des choses, je pense en particulier à un certain nombre d'initiatives de l'Assemblée générale des Nations Unies ces 2 dernières années. Voyez par exemple en matière de migration, le processus qui a été lancé, qui doit aboutir à 2 pactes sur les migrations à Marrakech à la fin de l'année. Voyez également la négociation intergouvernementale qui vient d'être lancée sur la biodiversité marine dans les zones dites de haute mer. Voyez également ce que l'Assemblée générale a décidé en créant un mécanisme international, impartial et indépendant pour collecter les crimes de guerre commis en Syrie par toutes les parties, alors que par ailleurs le dossier est totalement bloqué et notamment paralysé par la situation que vous connaissez au Conseil de sécurité. Pensez également aux objectifs de développement durable qui sont accompagnés, qui ont été lancés par l'Assemblée générale des Nations Unies et accompagnés par elle, ou bien encore, même si c'est très critiqué en France, l'adoption l'année dernière du traité sur l'interdiction des armes nucléaires par la même Assemblée générale. On pourrait multiplier d'autres exemples. Le Conseil de sécurité, même bloqué, a adopté une résolution à l'unanimité relativement importante en 2017, considérant que l'atteinte délibérée au patrimoine était désormais considérée comme un crime de guerre. Bon, donc, il y a des choses qui marchent. Il faudrait éviter de tomber dans le syndrome, vous savez que l'on désigne en anglais « if it bleeds, it leaks », c'est-à-dire... là où le sang saigne, le sujet est porteur. Il y a aussi des choses qui marchent et il est de notre responsabilité d'en parler.
Et si on revient à l'objectif principal ou l'enjeu principal quand même de ces Nations Unies ou de cette coopération multilatérale, si c'est la promotion de la paix ou disons la prévention des conflits, pour le dire autrement, parmi les 7 objectifs prioritaires qui sont énoncés, vous en avez pas évoqué certains, il y a aussi faire de l'Assemblée Générale le principal organe de promotion de la paix, juste qu'on revienne en un mot sur les facteurs d'affaiblissement quand même de paix et du multilatéralisme. l'islamisme. Surtout, qu'est-ce qui vous semble le plus menaçant aujourd'hui? Est-ce que c'est les attitudes unilatérales avec intervention territoriale et militaire, ou est-ce que c'est les discours plus généraux sur, par exemple, le caractère de palabre de l'OMC ou les babillages inventifs, comme le disait Vladimir Poutine du G7?
Oui, alors bon, votre question est très vaste. D'abord, il faudrait prendre un peu de recul. La coopération multilatérale, relativement récente, elle date de la deuxième moitié du 19e siècle, n'a jamais été un long fleuve tranquille. Il a fallu finalement deux tragédies, la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, pour qu'il y ait des poussées majeures qui aboutissent, d'une part, à la création de la Société des Nations, d'autre part, à l'Organisation des Nations Unies. Après ces poussées décisives, la coopération a toujours été relativement laborieuse. Je ne parle pas ici de l'entre-deux-guerres, bien connu, mais depuis 1945, pendant la période Est-Ouest, le Conseil de sécurité a été paralysé. Dans les années 70, les rivalités Nord-Sud étaient très importantes. Donc, ne mythifions pas non plus la coopération multilatérale, parce que dans les années 90, il y a eu une parenthèse que je qualifierais d'enchantée. Encore que cette parenthèse enchantée, ne l'oublions pas, elle a connu le génocide au Rwanda en 94 et Srebrenica en ex-Yougoslavie. Donc, là encore, prenons un peu de recul. Alors, Quelles sont les causes de l'affaiblissement? Très rapidement, parce que le sujet là aussi est vaste. D'abord, il y a le défi du nombre. Le nombre des acteurs qui sont en négociation a augmenté d'une manière significative. Le nombre d'États, mais aussi des acteurs non étatiques qui, d'une manière ou d'une autre, participent aux négociations, les intérêts sont multiples. Deuxième défi, le défi de la complexité. Aujourd'hui, les questions sont enchevêtrées. Il n'y a plus l'environnement d'un côté, la finance de l'autre, etc. Voyez par exemple la conférence dont nous parlions sur la haute mer et la protection de la biodiversité. Elle fait intervenir des problèmes environnementaux, des problèmes liés au changement climatique, des problèmes liés aux droits de propriété.
Oui, c'est assez expérimental,
etc.
En ce sens.
Donc, en fait, toutes les questions sont relativement mêlées, enchevêtrées. Enfin, il y a un troisième problème, c'est la crise de l'effectivité des normes. Les normes sont très nombreuses, on a une prolifération de normes actuellement. Jamais le monde international n'a été autant juridicisé. Mais en même temps, la question de l'effectivité de ces normes pose pas mal de problèmes. Et puis, il y a le regain de l'autoritarisme. Mais j'attire votre attention sur le fait que ce regain de l'autoritarisme, il est un sous-produit aussi d'une gouvernance dysfonctionnelle. La crise systémique financière de 2008, ou bien la crise des migrations, faute d'une régulation ou d'une gouvernance fonctionnelle adéquate, a produit, comme vous le savez, des mouvements populistes, nationalistes, qui ont fait le lit de l'autoritarisme. On est dans un cercle vicieux.
Alors, si on pose la question inversement, l'année dernière, le président Macron évoquait ce qu'il appelait les armes de l'efficacité, justement, pour promouvoir de nouveau le multilatéralisme. Qu'est-ce qui vous semble pouvoir sortir assez à court terme de ces assemblées générales et conseils de sécurité? On sait qu'il y a un plan de réforme des opérations de maintien de la paix qui n'est pas seulement symbolique, qui doit être annoncé par Antonio Guterres, ou alors la réaffirmation ou l'affirmation plus grande de cet éco-soc, là, ce Conseil économique et social, qui va jouer un grand rôle, notamment dans la gestion des biens communs, l'application des ODD, Objectifs de développement durable.
Les réformes, elles sont toujours sur le métier. Le problème, c'est qu'avec les réformes, il faut aussi un certain engagement politique. Évidemment, la gouvernance économique et sociale devrait être réintégrée au sein des Nations Unies, comme cela a été prévu initialement par la Charte, au sein du Conseil économique et social. Pour ça, il faudrait que les gouvernements le veuillent, le souhaitent. Il suffirait d'ailleurs que les chefs d'État se déplacent et participent à une session du Conseil économique et social, pour donner aussi un élan, un signe politique fort à ces questions-là. Bon, on n'en est pas là, mais je crois que quand même il y a quelques raisons d'espérer. D'une part, il y a des nécessités fonctionnelles qui imposent au gouvernement de coopérer. Aujourd'hui, aucune question ne peut être réglée seule par un État. Nous sommes de plus en plus dépendants. Les exemples sont innombrables. Deuxièmement, il me semble qu'il y a dans les institutions qui existent et le maillage institutionnel très dense qui existe, une certaine résilience. Les institutions sont là, elles continuent à fonctionner, elles continuent à produire de la norme, elles continuent à produire des négociations. Et puis enfin, je pense qu'il faut compter sur la mobilisation des sociétés, les sociétés civiles, les acteurs non étatiques, qui sont très importants. Jamais le « nous, peuple des Nations Unies », de la Charte des Nations Unies, n'a été aussi actuel. Il faut savoir se mobiliser, il faut savoir résister.
Et ces sociétés
notre
civiles,
tâche aussi.
Et on les verra justement dans cette Assemblée Générale et encore plus lors des négociations climat. On suivra les rencontres bilatérales entre chefs d'État aujourd'hui. Merci en tout cas Guillaume Devin. Je cite encore un de vos autres livres, Un seul monde, l'évolution de la coopération internationale aux éditions du CNRS.